Madame Rousseau, la question donc est simple, mais la réponse, elle, ne le sera pas. Comment comptez-vous tenter d'éradiquer les échanges de sextos dans les écoles?
Oh, c'est une grande question et on était tous rassemblés à Drummondville cette semaine autour de cette question-là. Et on était entourés du Centre canadien de protection de l'enfance qui sont de très bons conseils. Et on avait aussi avec nous la police de Saint-Jérôme et le DPCP de cette région qui ont trouvé une solution miracle, ou presque.
Ouais, c'est ça.
Alors, est-ce que vous voulez que je vous raconte ça?
S'il vous plaît, oui, parce que ça a l'air d'être la formule là, qui marche le mieux à date.
Oui, ben écoutez, c'est sûr que le Centre canadien de protection de l'enfance, eux, ils sont là pour travailler avec nous sur, ils nous informent de la situation, ils nous donnent des statistiques, par exemple, ils nous ont informé qu'un ado sur quatre est impliqué dans ce type de choses, donc faut pas se cacher la tête, faire l'autruche là, c'est là partout, c'est un problème mondial et vraiment depuis 2015, c'est en croissance, tous les enfants ont accès à un appareil, à Internet. Et donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est beaucoup de prévention. Hein? Il faut leur dire de ne pas partager de photos, de ne pas réclamer de photos non plus. Puis à ce moment-là, c'est sûr qu'on s'évite un paquet de problèmes.
Puis même si je sais qu'il y a un protocole aussi qui va être qui devrait être établi, là, c'est le cas de cette situation-là à Saint-Jérôme, mais vous avez tellement raison de mentionner la prévention. C'est pas si simple. Tu sais, des jeunes d'une école secondaire, là, ça fait des mauvais coups depuis la nuit des temps. Mm-hmm. Puis ça se le dit entre eux, puis tous les jeunes le savent, mais ils sont bons pour pas que les autorités en place le sachent, tu sais.
Mais vous savez, c'est aussi, là on dit que c'est des mauvais coups, mais en quelque part, c'est un nouveau schéma de séduction là entre nos adolescents. Ouais. Parce que le cas type, c'est des jeunes de 15-16 ans qui s'envoient des photos intimes entre eux, sans avoir aucune intention de diffusion plus large que ça. Mais à un moment donné, ça dérape. Il y a rupture. Les relations entre ces jeunes-là sont souvent pas si longues que ça. Et c'est là où ils perdent le contrôle de leur image. Alors, c'est sûr que la première chose à faire, c'est de la prévention. Mais on n'est pas dupe. On sait que même si on fait de la prévention à l'école, à la maison, en société, il va quand même y avoir des cas de sextage. Et c'est là où est-ce que ça nous prend une solution. Parce que, savez-vous, la production, la possession, la distribution de photos de jeunes mineurs nus, ben ça tombe sous le code pénal de la pornographie juvénile qui, lui, a 30 ans, ce code criminel-là. Alors, on était pris à appliquer un code qui a 30 ans des jeunes qui sont dans une toute nouvelle réalité. Et c'est là que le projet Sexto vient changer toute la donne.
Je suis content de vous l'entendre dire parce que quand il s'est passé le cas très très médiatisé au séminaire des pères maristes, j'étais le premier à dire il y a quelque chose qu'on fait pas comme il faut, dans le sens où les autorités ont réagi de la manière qu'ils ont réagi, ça c'est tel que tel, mais personnellement, moi je me disais c'est un problème de jeunes qu'on regarde avec nos yeux d'adultes, puis il va falloir adapter notre façon d'intervenir parce que on se doute pas à quel point c'est populaire ce phénomène-là, puis tu peux pas nécessairement appliquer le code pénal à des jeunes, faut d'abord déterminer, écoute, c'est quoi l'intention? C'est-tu un jeune qui a fait ça sur un coup de tête sans penser aux conséquences, ou si quelqu'un qui était fondamentalement malveillant? Et c'est un peu ça, d'ailleurs, qui est à la base de cette formule d'intervention-là que vous allez tenter d'appliquer.
Tout à fait, puis votre réaction est fantastique, tu sais, parce que nous, notre rôle, c'est d'être des éducateurs. Donc, c'est un peu la même réaction qu'ont eu les policiers à Saint-Jérôme quand ils ont eu les premiers cas il y a quelques années. Et eux, ça fait 3 ans là qu'ils appliquent la méthode qu'on appelle Sexto. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout un protocole là d'intervention où l'école, les policiers, le DPCP travaillent de concert. Et effectivement, la première chose à se poser comme question, c'est est-ce que c'est un geste malveillant? Ou est-ce que c'est un geste qui est plutôt impulsif, lié à un acte de jeunesse? Et savez-vous, depuis 3 ans, là, 9 cas sur 10 qu'ils traitent, ce sont des actes impulsifs. Mmh. Alors, la différence dans la méthode Sexto, c'est la suivante. Quand c'est un acte malveillant ou quand on utilise la méthode traditionnelle judiciaire pour traiter un cas comme ça, ça prenait entre 10 à 18 mois pour clore l'enquête. Et là, dans la méthode Sexto, ça prend, écoutez bien ça, 4 jours.
Mais ça veut dire que vous travaillez, par exemple, vous savez, des jeunes viennent vont voir, par exemple, un professeur, ou en tout cas, vous savez qu'il y a ces sextos-là. Vous envoyez ça, vous faites une capture d'écran, vous envoyez ça à la police. Comment ça fonctionne?
Oh, non. Non, ça, c'est des choses qu'on a apprises, évidemment. T'sais, on n'a pas à faire de capture d'écran parce qu'à ce moment-là, on fait nous-mêmes la production puis de la possession de matériel pornographique. Alors non, il faut pas faire ça du tout. Mais la chose qu'il faut travailler avec nos jeunes, c'est l'ouverture, c'est la bienveillance. On se rend compte, le Centre canadien nous a sensibilisés à ça. Les jeunes, là, ils font silence quand ça leur arrive. Ouais. Ils ont très honte. Puis là, ils veulent pas le dire à leurs parents, ils veulent pas le dire à l'école. Donc, il faut vraiment ouvrir un dialogue entre parents et enfants, entre intervenants scolaires et les enfants, pour leur dire, écoutez, si ça vous arrive, là, parce que ça les dépasse, hein, quand ça arrive, là, c'est vraiment, ça va très, très rapidement avec l'Internet. Alors, ils viennent, là, dépasser par les événements, c'est pas long, parce que tout le monde se retrouve avec la photo, ça peut être très rapide. Et là, il faut vraiment qu'un adulte intervienne et rapidement, là, prenne le contrôle de la situation pour les rassurer et leur dire, écoutez, ça va bien se passer, là. Puis dans quelques jours, en tout cas avec la méthode sexto, en quelques jours, on va passer à d'autres choses.
Parce que ce que je semble comprendre, c'est que lorsque 9 fois sur 10, c'est des cas où le jeune a posé un geste impulsif, quand c'est le cas, il passe dans une espèce de, on va appeler ça une justice alternative, mais donc il rencontre un policier, s'engage à supprimer toutes les images de tous les appareils, et s'il récidive, là, il est formellement accusé de la manière plus traditionnelle. Mais la question que j'ai envie de vous poser, Mme Brousseau, c'est est-ce que vous faites une distinction entre les jeunes qui envoient des photos d'eux-mêmes, des jeunes qui envoient des photos d'autres jeunes qu'ils ont reçus et des jeunes qui sollicitent des photos nues d'une autre personne? C'est trois gestes différents, mais qui sont tous les trois des gestes graves.
Oui, et effectivement, on fait la différence. Dans les trois cas, c'est des gestes criminels. Hein? Même quand on s'auto-exploite, ça tombe sous production de matériel de pornographie juvénile, ensuite possession, ensuite distribution. Mais on considère les jeunes qui s'auto-exploitent comme des victimes, même si elles prennent des photos d'elles-mêmes et contreviennent au code criminel. Pour nous, ce sont des victimes et on les considère comme ça. Okay. C'est sûr que la personne qui sollicite des photos ou la personne qui distribue des photos, ben, elle va être considérée autrement, là. Oui. Donc, on va s'assurer que ces gestes-là sont bien compris et ne sont pas répétés.
Ouais. Et l'une des critiques de certains groupes à l'égard de votre protocole, là, qui m'apparaît quand même assez efficace, mais l'une des critiques, c'est qu'il n'y a rien dans le protocole qui prévaut pour des situations où des présumés agresseurs seraient en contact à l'école avec de présumées victimes. C'est d'ailleurs une des situations qui avait posé problème au séminaire des Pères Maristes, là. Les jeunes garçons avaient été isolés dans une aile en particulier. Là, il y avait la rentrée scolaire qui arrivait. On disait, les victimes vont revenir à l'école, les présumés agresseurs aussi vont se croiser. Comment faire pour éviter ça? Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là?
Oui, ben ça c'est pas le rôle de la police de décider ça, ça va être le rôle du DPCP, alors ou le rôle de la justice, d'un juge qui va dire bon, ces personnes-là ne doivent pas être en contact, etc. Mm-hmm. Puis c'est le rôle de l'école aussi. Ouais. Alors c'est sûr que nous là dans la loi, on est contraint d'avoir un climat sain, d'avoir un climat exempt là de d'intimidation. Bon, enfin, il faut que le climat d'apprentissage soit idéal pour nos jeunes. Alors c'est à l'école de définir qui peut être avec qui, si c'est pas un juge qui s'en mêle. Et comme les parents sont dans la boucle depuis le tout début dans la méthode sexto et à travers le poste de police, ben, en quelque part, on peut s'entendre sur les modalités.
Mm-hmm. Mais en même temps, Mme Brousseau, vous conviendrez comme moi qu'une école secondaire, c'est grand oui puis non, là, dans le sens où que deux jeunes se croisent pas, même si c'est la responsabilité des écoles, que deux jeunes se croisent pas si la cour l'a exigé, c'est à peu près impossible à appliquer pour eux, non?
Oh, vous avez raison. Ce que Saint-Jérôme vit depuis 3 ans, c'est que dans les cas où c'était pas malveillant, dans les cas où c'était impulsif, Il n'y a pas de problème à la cohabitation par la suite. En tout cas, eux okay. ne nous relatent pas de problème. C'est les cas où c'est vraiment malveillant. Et là, à ce moment-là, la justice s'en mêle. Et nous, on va collaborer avec la justice puis on va appliquer les règles. Ça, c'est certain. Là, s'il y a de la sextorsion, du leurre, là, nous, on c'est prend ça. Ça très, très au sérieux. Puis on a des codes de vie aussi. Hein? Puis on va appliquer nos codes de vie et ce que les juges nous diront d'appliquer. Ça, c'est certain.
Merci beaucoup, Mme Brousseau, d'avoir pris du temps pour nous ce matin. C'est très éclairant.
Ben, ça fait plaisir.
OK, merci. Bonne journée. Nancy Brousseau, directrice générale de la Fédération des établissements d'enseignement privé du Québec, qui tente donc une nouvelle méthode qui, honnêtement, moi, je suis optimiste, honnêtement, à l'égard de cette méthode-là. Il suffit que les autorités soient capables de bien déterminer si le geste, donc, est impulsif ou profondément malveillant. Mais je pense que le nerf de la guerre, il est vraiment là. Puis après, ben, qu'on applique des conséquences qui sont plus adaptées, c'est-à-dire un geste impulsif. On rencontre le jeune avec la police, là, ça, faut pas négliger que c'est intimidant moi, t'as dit, sûr. Pour un jeune de 15 ans, 14 ans, rencontrer le policier, qui l'oblige formellement à supprimer les photos et qui lui dit, si jamais tu renvoies une photo de toi nue ou que t'en sollicites ou que t'en reçois puis tu la transmets, c'est des accusations criminelles.
Ouais,
là.
Ouais.
Ça, pour moi, c'est plus adapté.
Et le délai est plus adapté aussi. Ah ben alors, oui. Quand tu sais qu'il y a un processus, puis ça ne va pas prendre 18 mois, mais ça ne prend que 4 jours, selon ce qu'on dit, ben déjà, c'est plus encourageant.